La science CQFD, Natacha Triou.
Avec le programme spatial Artemis, nous nous rapprochons un peu plus d'une installation humaine durable sur le sol lunaire. On vous a donc préparé une semaine spéciale, on va s'installer sur la Lune. Les astronautes ont foulé le régolithe lunaire et depuis les missions Apollo, les minéralogistes examinent de minces échantillons de roches rapportées sur Terre. Ces analyses ont bouleversé nos connaissances géologiques de la Lune, sa tectonique, son volcanisme passé et surtout la présence d'eau. Mais comprenons-nous si bien que ça le sol sur lequel nous allons de nouveau nous poser? Les questions suspens sont nombreuses et leurs réponses auront des conséquences à long terme sur l'exploration spatiale. Géologie, la Lune sous le manteau. Philippe Lognonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géophysicien et planétologue à l'Institut de physique du globe de Paris, l'IPGP, professeur à l'Université Paris-Cité et co-responsable scientifique du futur sismomètre lunaire, le FSS. Nous sommes en duplex de Nancy avec Jessica Flao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue spécialiste des surfaces lunaires et martiennes et chercheuse au CRPG de Nancy. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation sur France Culture en direct et à toute heure également en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Merci à vous qui nous écoutez. Et ben vous pouvez nous écouter tout en nous suivant sur Twitter, sur X pour notre live tweet qui commence tout de suite. Alors que reste-t-il à découvrir de la Lune? Quelles sont les énigmes géologiques lunaires? À quel point sa surface contient-elle de l'eau et que permettrait l'étude de nouveaux échantillons lunaires et l'étude de sa structure interne? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour. La parole est donnée en 1965 au plus célèbre volcanologue, Haroun Taziev.
Le côté aventureux de la géologie trouve énormément de matière sur Terre, mais les géologues des générations futures, et peut-être même ceux de la toute nouvelle promotion de cette année, vont avoir des possibilités que nous n'avons pas eues, et je les envie, c'est d'aller faire de la géologie sur la Lune. Ce n'est plus l'utopie. Demain, dans un avenir très proche, l'homme ira sur la Lune. Et les premiers à y débarquer seront des géologues et des géophysiciens. Des gens capables de comprendre le sol nouveau sur lequel l'humanité va se poser. Je crois que ces vastes cirques, dont le contour n'est pas circulaire, mais, si vous faites attention, polygonal, et même souvent hexagonal, ces vastes cirques sont les traces, les cicatrices de gigantesques courants de convection qui, avant que la Lune ne se solidifie, brassaient le magma incandescent comme celui du lac de lave du Nyiragongo, qui formait l'essentiel de cette petite planète, la Lune. Et ces cellules de convection se sont figées, se sont solidifiées, et elles ont subsisté jusqu'à nos jours parce qu'elles n'ont pas été érodées, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'érosion à la surface de la Lune, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air, donc pas de vent, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de gel, il n'y a pas de torrent, il n'y a pas de marée, et ce qui se trouve sur la Lune y demeure à jamais. Voilà l'opinion que j'ai de ces gigantesques cirques lunaires.
Voilà la voix d'Haroun Taziev en 1965 sur la ORTF. Philippe Lognonnet, quelle est votre réaction à l'écoute de ce volcanologue qui parle de la géologie lunaire à cette époque?
J'ai deux réactions. La première réaction, malheureusement, en fait, le géologue et le géophysicien a été le dernier à aller sur la Lune. Et par chance, en fait, il était prévu qu'il y aille avec la mission Apollo 18, Jack Harrison-Schmitt, et finalement, comme cette mission a été annulée, la NASA s'est dit, ops, on a quand même oublié quelque chose dans ce programme Apollo, un géologue, ah ben oui, on va le mettre d'office sur la mission Apollo 17. Ça, c'était peut-être la naïveté, comme beaucoup de scientifiques, d'Haroun Taziev, que j'ai dû sûrement partager, en imaginant que la science d'abord, ben non, c'était pas la science d'abord. La deuxième chose, c'est finalement, en fait, il a pas dit, il a dit des choses assez vraies. Il y a sûrement, il y a de la lave qui s'est penchée dans les grands bassins d'impact. Hein. Peut-être pas avec les mêmes mécanismes de ceux du volcanisme, mais n'empêche, c'est bien de la lave qui a remonté et qui a envahi le fond. Et puis pour le reste, effectivement, une planète hein, où tout est lent parce qu'il n'y a pas d'érosion.
On était donc en 1965, on n'avait pas encore fait ce petit pas pour l'homme. Jessica Flau, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive?
Alors, on écoute un grand monsieur, alors c'est difficile de critiquer. Mais effectivement, c'était avant les missions Apollo. Et depuis, on sait que ces structures concentriques sur la Lune, c'est pas forcément des cellules de convection comme ils le proposent, qu'il y a aussi beaucoup de cratères d'impact. Donc il y a des petites choses qui ont été précisées grâce à ces missions, à ces retours d'échantillons aussi, qui ont été fondamentaux vraiment pour notre compréhension de la formation et de l'évolution de la Lune. Mais il y a quand même des hypothèses très vraies aussi, alors que c'était dans les années 1960, et notamment le fait que la surface de la Lune, il ne s'est pas passé beaucoup de choses, il n'y a pas d'érosion, et c'est pour ça qu'on a un enregistrement géologique qui est assez unique et qui est exposé à la surface.
Jessica Flau, on va parler beaucoup hein, tout au long de cette émission des missions Apollo, évidemment de Artemis, Artemis 3, le retour d'humains sur la Lune, c'est prévu pour septembre 2026. Mais Jessica Flau, on peut aussi tout de suite casser une idée fausse, à retourner sur la Lune, c'est pas du tout facile et on est loin de pouvoir aller se poser où on veut encore aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier que les missions lunaires, c'est à peu près seulement 40% de succès, avec des échecs récents. L'année dernière, il y a eu l'échec des Émirats Arabes Unis, il y a eu l'échec de la Russie, il y a eu les Indiens qui ont enfin réussi à se poser, mais après aussi un échec. Donc même encore aujourd'hui, on a encore du mal à atteindre la surface lunaire avec des robots. Donc il faut bien sûr qu'on arrive à être un peu sûr de notre coup pour envoyer des hommes. Et c'est des choses qui y a un savoir-faire qui s'est perdu de l'époque des missions Apollo. Donc c'est des choses qu'il faut redévelopper, retester. Et ça va prendre un petit peu de temps avant d'être sûr de nous et de décrocher la Lune.
Philippe Le Mionnet.
Oui, ben c'est un retour. C'est un retour un petit peu comme dans les années 70, forcé par une sorte de compétition. Hein, le compétiteur des États-Unis a changé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies qui se sont perdues. Ce qui est extraordinaire quand on va voir les grandes fusées Saturne V à Houston, c'est que finalement, ces grandes fusées-là, on n'est plus capable aujourd'hui de les fabriquer. Il faut un peu tout réinventer. Mais ce n'est pas le propre du spatial. Il y a beaucoup de domaines où la technologie se perd quand on ne la pratique pas.
On écoutait donc Haroun Taziev décrire diverses vues des cratères de la Lune. Alors depuis 1609, nous avons les premiers dessins de la phase visible, ceux de Galilée, malgré la mauvaise qualité de l'optique. On y voit des étendues sombres et plates, qu'il appelle mer, et des zones montagneuses qu'il appelle terre, qu'on appelle aujourd'hui continent. Philippe Nonionnet, quelles sont nos connaissances géologiques aujourd'hui des mers et des continents lunaires?
Je crois qu'on a énormément progressé avec les missions Apollo, hein, justement parce qu'on a pu ramener des échantillons de ces terres qui finalement sont quelque part un peu l'écume de la Lune. C'est l'écume de la Lune qui s'est formée lorsque la Lune était fondue et donc tout ce qui était léger, hop, ben c'est remonté un petit peu à la surface. Et puis ensuite, ben il y a eu ces mers et ces mers, on sait aujourd'hui que c'est des très grands cratères d'impact où les impacts ont été tellement violents que la croûte lunaire s'est fissurée et à travers ces fissures, eh bien il y a de la lave, du basalte qui est remonté, qui était caché à l'intérieur de la Lune. Donc on a énormément progressé avec les missions Apollo.
Jessica Flau.
Oui, c'est ça. Sur les terres lunaires, en fait, c'est cette croûte vraiment primordiale. C'est les premières roches formées à la surface de la Lune, recouvertes plus tard par ces plaines volcaniques plus sombres, plus lisses qu'on voit à l'œil nu, qu'on a appelées donc par erreur les mers, en pensant au début, quand on les regardait à la lunette, que c'était des étendues d'eau.
Alors, justement, là, vous évoquez les origines de la Lune. Philippe Le Mionnet, entre 1968 et 1972, on a des études géologiques au sol qui sont menées lors des 6 missions et 382 kilos d'échantillons lunaires qui sont rapportés sur Terre. Comment ces échantillons de roches lunaires ont-ils justement permis de reformuler l'hypothèse de l'origine de la Lune? On peut raconter cette histoire-là.
Alors ça, c'est une des très grandes surprises de la recherche scientifique. On ne savait pas très bien comment la Lune s'était formée avant les missions Apollo. On pensait que peut-être que la Lune s'était formée, c'était un petit morceau de la Terre. Certains disent même, ah bah finalement, vous voyez, le Pacifique, c'est la grande cicatrice de cette partie. Alors évidemment, c'est pas ça la raison. Et il y a une chose qui est remarquable, en fait, c'est qu'on s'est aperçu que certains atomes de l'oxygène sont quasiment les mêmes. On parle de rapport isotopique entre la Terre et la Lune. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la Terre et la Lune étaient tellement mélangées que que c'était presque un même corps du point de vue de la chimie isotopique. Et c'est là qu'est arrivée cette idée que la Lune, en fait, s'est formée lors d'un impact énorme d'une planète qui avait à peu près la taille de Mars, qui est rentrée en collision un petit peu avant 4,4 milliards d'années, entre 4,50 et 4,40 milliards d'années. Et de cet impact-là, la Lune s'est formée très rapidement. Mais la première phase était tellement chaude, tellement haute température, que tout ça s'était mis à l'équilibre après l'impact. C'était sûrement pas un bon moment pour être sur Terre, avec un impact d'une violence qu'on peut pas imaginer aujourd'hui.
C'est ça, c'est que la Lune est à peu près aussi âgée que la Terre, elle s'est formée un peu peu de temps après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Lune s'est pas du tout formée comme la planète Terre, qui, elle, s'est formée en plusieurs dizaines de millions d'années, alors que la Lune, elle, en quelques siècles seulement.
Oui, alors c'est des processus de reformation à partir des débris qui sont excessivement très rapides, qui n'ont rien à... En fait, c'est des processus qui sont comparables à l'histoire. Hein, tout simplement, l'histoire, c'est quelques milliers d'années. Donc, en fait, ça s'est passé dans un temps historique, alors que les planètes se passent et se forment dans des temps géologiques. Donc, des dizaines de millions d'années. Ça n'a rien à voir. Et du coup, toutes les notions de la géologie, en fait, sont à revoir. Parce que, évidemment, quand vous avez des processus aussi rapides, vous gardez énormément d'énergie. Et la planète, ensuite, va évoluer d'une manière très, très différente. La planète, en l'occurrence, le satellite.
Jessica Flau.
Oui, Philippe l'a très bien dit, ces échantillons Apollo nous ont permis de comprendre l'origine de la Lune, donc par un impact géant d'une protoplanète de la taille de Mars, Théia, qui aurait foncé dans la Terre. Mais ils nous ont aussi permis de comprendre, après, de manière générale, comment se forment les planètes rocheuses, puisqu'on sait que la Lune, elle a été fondue au début de son histoire, il y avait un océan de magma, il y a ces anorthosites qui se sont formés, qui étaient les échantillons qui ont flotté au sommet de cet océan de magma au fur et à mesure que la Lune se refroidissait, que l'océan de magma cristallisait. Et ce modèle de formation des planètes avec un océan de magma au début qui se refroidit, qui permet la différenciation, on a les matériaux les plus lourds, les plus denses qui vont couler au centre pour former un noyau métallique et des choses plus légères qui vont flotter, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on applique à toutes les planètes rocheuses du système solaire, y compris à la Terre. Donc c'est la Lune et ces échantillons Apollo qui ont permis de comprendre comment on a formé des planètes rocheuses. Et c'est pour ça qu'on dit aussi souvent que la Lune est un peu la pierre de Rosette des planétologistes.
On y reviendra également sur cette pierre de Rosette en planétologie. Mais pour continuer à approfondir, Philippe Lognonnet, sur cette Lune, sa formation et sa structure, vous venez d'évoquer, Jessica Flau, son noyau. La structure interne de la Lune, on la connaît entre autres grâce aux 6 sismomètres déposés par les missions Apollo qui ont enregistré les tremblements de Lune. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on trouve de la surface jusqu'au cœur de la Lune ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous aurais répondu il y a 20 ans en vous disant des choses fausses, hein, comme je l'ai souvent dit aux étudiants. Pourquoi ? Parce que le noyau de la Lune, on l'a vraiment découvert au début des années 2000. Alors, des années 2000, on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est 30 ans après Apollo. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu 30 ans pour que les miroirs qui sont sur la Lune, qui nous permettent d'étudier la rotation de la Lune de manière très précise, fassent sortir un petit signal qui était un signal de frottement. Donc il y avait un truc qui empêchait la Lune de tourner rond, hein, pour faire simple. Et ce truc, en fait, c'est un noyau liquide d'un rayon autour de 350 km qui se trouve évidemment en son centre. Depuis, on pense en plus qu'il y a une graine solide de 250 km. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que la Lune ressemble finalement un peu à la Terre, avec une graine solide, un noyau liquide, un manteau et une croûte, avec des différences, tout petit ce noyau, et à la base de ce manteau, en fait, peut-être un peu du manteau fondu.
Oui, c'est ça, c'est qu'on pensait que c'était un astre mort, solide partout. Jessica Flau, on voit comment notre vision de la Lune profonde a été bouleversée.
Oui, exactement, et c'est aussi parce qu'on a multiplié un peu les missions sur le début des années 2000. On a commencé à renvoyer des satellites vers la Lune après presque 50 ans de hiatus, la fin des missions Luna et du programme Apollo. Et on a commencé à faire tout un tas de petites découvertes qui relance un peu les questions scientifiques, par exemple des volcans qui ont l'air assez jeunes, donc c'était assez inattendu, ça en dit pas mal sur le dynamisme de la Lune, sur la structure interne, sur l'activité. des roches aussi, des compositions qui ont été découvertes, qui étaient assez inattendues, qui vont un petit peu plus loin que cette dichotomie terre-mer où on a des choses intermédiaires, on a des choses un peu exotiques aussi. Donc finalement, pas mal de nouvelles découvertes qui relancent aussi, qui soulèvent pas mal de nouvelles questions.
Justement, quelles sont ces nouvelles questions? Quelles sont ces énigmes profondes qui sont ouvertes? Restez avec nous, on y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Jessica Flao et Philippe Lognonnet, on commence notre semaine spéciale, on va s'installer sur la Lune. Quelles sont nos connaissances géologiques et quelles sont les nombreuses questions qui restent en suspens? C'est les questions que nous posons aujourd'hui pour ce premier épisode. On vient de rappeler que nous ne sommes qu'au tout début de l'exploration lunaire et que la géologie lunaire est primordiale pour les futures missions habitées. Philippe Lognonnet, pourquoi les phases visibles? Enfin, la face visible et la face cachée, pourquoi ces deux faces sont-elles si dissemblables d'un point de vue géologique?
J'aimerais bien vous donner toutes les réponses à cette question. On a quelques idées, mais force est d'admettre qu'on n'a pas encore tout compris. Alors, vraisemblablement, cette différence-là, en fait, est liée à cette... au fait que, assez rapidement, la Lune, c'est donc... mise dans cette forme de rotation qu'on appelle la rotation synchrone, c'est-à-dire le fait que la Lune nous montre toujours le même côté. D'ailleurs, c'est pas forcément évident que ce côté a toujours été le même. Peut-être qu'il y a 4 milliards et demi, elle a fait des tours de flip-flop comme ça, après des très gros impacts, mais très rapidement, elle est restée dans cette configuration synchrone. Cette configuration synchrone a généré des gradients de gravité, peut-être des gradients de force centrifuge, et en particulier peut-être qu'au moment où la Lune se formait, en fait, a un petit peu changé la distribution des matériaux. Mais tout ça, c'est des idées. Je pense que si j'avais une réponse encore parfaite, c'est un des enjeux et un des objectifs de futures missions de mieux comprendre ça, parce que finalement, on a très, très peu documenté la face cachée de la Lune. Il y a seulement une mission chinoise qui s'est posée en premier sur la face cachée, une autre qui le fera pour du retour d'échantillons. Et j'espère dans quelques années, en 2026, nous y déploierons avec le Jet Propulsion Laboratory et le CNES un sismomètre. Et donc, ça sera le début de cette auscultation de la face cachée.
Par rapport à cette distribution des matériaux, Jessica Flao, pour prolonger cette dissymétrie entre face cachée et face visible, pourquoi y a-t-il plus de fer du côté face visible? Pourquoi le thorium paraît presque entièrement concentré dans une région de la face visible?
Oui, vous le dites très bien. En fait, c'est assez hétérogène les compositions chimiques à la surface de la Lune. On a du mal à comprendre pourquoi. On se demande si c'est que la solidification s'est pas faite de manière complètement symétrique sur la Lune. Pourquoi cette croûte, elle est plus épaisse finalement sur la face cachée? Alors, ça peut expliquer peut-être aussi pourquoi il y a eu plus de volcanisme sur la face visible. C'est peut-être plus facile de faire remonter du magma là où la croûte est plus fine. Mais ça fait partie des questions. Il y a beaucoup d'anomalies chimiques. Il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité dans les compositions des roches lunaires, des basaltes en soi. Donc, essayer de comprendre les hétérogénéités chimiques qui peuvent aussi être présentes au niveau du manteau. Ça fait partie des questions. Et malheureusement, Philippe le disait très bien, on a encore pas beaucoup exploré la face cachée. En fait, finalement, on n'a pas exploré grand-chose de la Lune. On s'est aussi beaucoup posé sur la face visible, dans les mers lunaires, parce que c'est des zones plus plates, plus faciles d'accès. Et du coup, on a échantillonné essentiellement des roches qui proviennent d'une anomalie géochimique, qui sont justement riches en fer, riches en thorium, mais qui sont peut-être pas complètement représentatives de la Lune. Et on a encore pas mal de travail à faire pour explorer d'autres régions, comme cette face cachée, mais aussi comme par exemple les pôles lunaires, où il y a d'autres petites choses qui pourraient nous intéresser et où la composition des terrains est probablement différente.
C'est-à-dire que les échantillons des missions Apollo, Philippe Lognonnet, ça représente peut-être un biais d'études.
Ah oui, c'est un biais d'étude, tout simplement parce qu'il fallait parler à Houston, et puis en plus, il fallait y aller. Et donc, du coup, il y avait des contraintes de mission qui font que presque tous les sites d'atterrissage sont à peu près au milieu de la Lune, si je puis dire, du côté de la face cachée. Hein. Et donc, mais ceci dit, est-ce normal ? Non, c'est simplement la logique des choses. Hein. Quand Christophe Colomb a posé les pieds aux États-Unis, il était loin d'imaginer la diversité dans les États-Unis, dans le continent nord-américain. Il était loin d'imaginer la diversité de ce continent. Donc, bien, je pense que la colonisation, malheureusement, ou la découverte, tout simplement, d'autres terres, ça prend du temps.
Par rapport au volcanisme, dans les mers lunaires, on voit souvent des vallées. Dans Autour de la Lune en 1870, Jules Verne déduit à tort que la présence de ces vallées était le reflet d'une ancienne présence d'eau. Jessica Flau, qu'est-ce que c'est alors ?
Alors, vous parlez sans doute de fractures ou de graben, donc des structures un peu extensives. Alors, on voit aussi des structures compressives dans ces mers lunaires. En fait, on voit de la tectonique liée à la mise en place de ces grandes plaines volcaniques. Donc, on peut avoir des structures compressives, des rides qui viennent un peu du refroidissement de cette mer. Et on peut avoir aussi, voilà, des vallées, des structures extensives qui se forment vraiment liées à l'emplacement, au poids, à la subsidence de cette mer, qui s'installe, donc, qui fait un peu craquer la croûte.
Philippe Lognonnet.
Oui, je pense que Jessica a bien résumé. C'est il y a beaucoup de choses qu'on a pensées au 19e siècle en fait, et aujourd'hui, c'est des choses différentes. Hein. Vous parlez de Jules Verne, mais on peut parler aux canaux martiens. Je pense que l'homme au 19e siècle essayait d'imaginer des choses, et aujourd'hui, l'imagination a été remplacée par des données scientifiques qui font que peut-être c'est plus terre à terre. C'est juste des structures géologiques.
Mais comment se sont, plus précisément, Philippe Lognonnet, comment se sont formées ces mers lunaires?
Alors, les mers lunaires, finalement, à la base, ce qu'il faut voir, c'est que les premiers 200, 300 millions de... Les premiers 500 millions d'années de la Lune ont été d'une violence incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est un moment il y a 3,8, 3,9 milliards d'années où il y a eu ce qu'on appelle un bombardement massif. Hein. Donc énormément de petits corps en fait qui venaient du confin du système solaire qui sont rentrés en collision avec toutes les planètes, y compris la Lune. Et à ce moment-là, la Lune était encore très chaude à l'intérieur. Donc, elle avait sûrement encore beaucoup de magma fondu, en fait. Et donc, ces impacts, de par leur violence, ont fracturé. Donc, non seulement ont créé un grand cratère. Bon, ça, on le comprend bien. Mais surtout, ce cratère, en fait, a fissuré la croûte. Et à travers ces fissures, eh bien, il y a de la lave qui est remontée et qui a envahi, finalement, les cratères. Alors, on parlait tout à l'heure de lave liquide. Je pense que c'est des laves qui sont très, très liquides, très fluides. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces cratères sont vraiment très, très, très plats. On pourrait presque voir les bords du rivage de lave quand on les regarde. Et ensuite, évidemment, cette lave liquide s'est refroidie et s'est solidifiée.
Jessica Flau, quand est-ce que ce volcanisme lunaire s'est-il éteint ?
Alors, le gros de ces mers lunaires se serait mis en place entre 4 et 3,5 milliards d'années, donc c'est assez ancien. Hein. Et puis, au fur et à mesure que la Lune s'est refroidie, on avait de moins en moins de volcanisme. On a quand même quelques mers qui seraient en dessous de 2 milliards d'années, notamment celle, l'océan des tempêtes, qui a été explorée par Chang'e 5. Et puis ensuite, on a maintenant découvert un peu plus récemment des traces de petits édifices, certains qu'on appelle les IMP, les Irregular Mare Patches, mais il y a d'autres petits dômes aussi, des petites choses un peu plus confinées, un peu plus restreintes en taille, mais qui ont très peu de cratères à leur surface, donc qui seraient assez récents. Donc on pense que le gros des mers lunaires, ça s'est fini il y a à peu près 2 milliards d'années, mais il y aurait eu peut-être ponctuellement, localement, encore un peu de volcanisme plus récent. Donc peut-être des zones encore en fusion à l'intérieur de la Lune.
Philippe Lognonnet, quelles sont les hypothèses à propos justement de ce volcanisme récent ? Marginal, mais réel.
Je crois que...
Quand on dit récent, on peut peut-être
oui,
aussi remettre...
Oui, quand on dit récent, disons relativement récent. Disons que l'idée fondamentale, en fait, c'est peut-être un peu la suivante. C'est qu'au début, on pensait que la Lune était petite. Et comme elle était petite, elle allait se refroidir très, très, très vite. Et donc, très rapidement, perdre toute sa chaleur. En fait, cette idée s'avère fausse. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que la Lune se refroidit, elle s'entoure d'une sorte d'isolant, ce qu'on appelle la lithosphère thermique pour les spécialistes. Et au fur et à mesure que la Lune se refroidit, cet isolant est de plus en plus épais. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? La Lune va confiner sa chaleur à l'intérieur. Donc, oui, elle se refroidit en surface, mais elle va confiner cette chaleur. Et de temps en temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un petit peu des bouffées de chaleur, si je puis dire, qui vont réussir à faire fondre des matériaux, et puis ensuite ces matériaux, comme on peut avoir des fractures, ces matériaux vont doucement remonter vers la surface. Donc il y a vraiment cette idée que les petits corps, comme la Lune, se refroidissent finalement pas si vite. Ce qu'ils font, c'est qu'ils confinent leur chaleur d'une manière de plus en plus efficace au fur et à mesure que le temps passe.
Une des grandes énigmes lunaires, Jessica Flau, c'est la présence évidemment de l'eau. La glace d'eau pourrait se trouver dans des régions lunaires bien spécifiques, qu'on appelle les cratères d'obscurité éternelle, où les rayons de soleil ne percent jamais. Que sait-on plus précisément de cette présence d'eau ?
Alors, c'est une des grosses surprises de cette décennie, c'est qu'on trouve de l'eau sur la Lune, et on trouve aussi de l'eau dans la Lune. Alors, on a plusieurs sources possibles. On parlait du volcanisme tout à l'heure. On sait aussi que localement, il y a eu des éruptions plus explosives, donc avec du gaz, donc avec de l'eau, des gaz volcaniques qui peuvent sortir de l'intérieur de la Lune, qu'ont formé des dépôts pyroclastiques. Donc, il y a des petits endroits où on voit des taches sombres qui sont des cendres, des scories à la surface de la Lune. Donc, on avait déjà quelques indices qu'il y avait peut-être de l'eau à l'intérieur qui était dégazée. Donc, qui viendrait de l'intérieur de la Lune, qui n'a pas été perdue au moment de sa formation par cet impact géant. Voilà. Ou alors, elle a été apportée plus tard. On ne sait pas exactement s'il en est resté après sa formation, si elle a été apportée par des météorites qui sont tombées à la surface. Ce qu'on sait, c'est que le vent solaire a l'air aussi d'implanter de l'eau à la surface des grains, un peu partout sur la Lune. Et cette eau pourrait migrer et s'accumuler dans des régions, donc sur des échelles de temps de milliers, millions d'années, s'accumuler dans des régions particulièrement froides, au pôle, où est-ce qu'on a des cratères qui ne reçoivent jamais la lumière du soleil, où la température descend à moins de 230 degrés Celsius.
Mais ces traces d'eau, Philippe Launonnet, ce sont d'ailleurs, elles sont à l'origine du choix du pôle sud comme cible d'alunissage pour l'équipage d'Artemis 3.
Oui, elles sont à l'origine un peu de cette ruée vers le pôle sud. Alors, c'est pas la ruée vers les champs de pétrole, mais il y a un petit peu cette idée. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il y aurait de l'eau, surtout que cette eau serait exploitable, eh bien, l'eau, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Vous avez le soleil qui est pas très loin, donc avec les rayons du soleil, on peut séparer l'oxygène de l'hydrogène. Et une fois que vous avez de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide, eh bien, vous avez le comburant et le carburant de la fusée Ariane. Donc, quelque part, c'est un peu la station-service de l'exploration spatiale de demain qui s'y trouverait. Mais encore faut-il l'exploiter, la trouver et évidemment savoir la manipuler.
Alors, comme le pétrole, est-ce que ce stock de glace superficielle, est-ce que c'est une ressource finie ou est-ce qu'il s'en forme encore ?
Alors, Jessica a parlé tout à l'heure de processus de formation qui vont être à l'échelle de millions d'années. Disons qu'on peut dire que pour l'humanité que nous connaissons, le stock est fini.
Jessica Flau.
Oui, c'est vrai que cette eau, elle intéresse énormément pour tout ce qui va être exploitation de ressources in situ, sur place et faciliter l'exploration de la Lune par les hommes, le retour des hommes sur la Lune, les missions humanisées, aussi l'exploration de destinations plus lointaines, en utilisant pourquoi pas la Lune comme plateforme, comme un petit peu station-service, Philippe l'a dit. Mais en plus de cet intérêt en termes de ressources, j'insiste aussi sur l'intérêt scientifique. Allez échantillonner cette eau sur la Lune, allez l'analyser, ça nous permettrait aussi de mieux comprendre l'origine de l'eau dans le système solaire interne et sur notre propre planète.
Oui, mais comme vous dites, Jessica Flau, s'il y a peu d'eau sur la Lune, ça va être compliqué d'envisager d'aller plus loin dans l'exploration spatiale. Mais si le stock est conséquent, ça va avoir aussi des conséquences à long terme sur l'exploration du système solaire. Philippe Launonnet.
Oui, je pense que il y a peu de marchés qui soient autosuffisants au sens commercial. Peut-être que l'eau sur la Lune pourrait être un de ces rares marchés, mais avec un temps de retour qui serait plutôt 50 à 100 ans, donc avis aux investisseurs. Mais à côté de ça, vous l'avez dit, aujourd'hui on n'a pas de données qui nous qui nous permettent de savoir sur quelle profondeur cette eau se trouve. C'est peut-être uniquement quelques centimètres à la surface de quelques-uns de ces cratères qui sont dans la nuit permanente, peut-être des millimètres, mais peut-être ça pourrait être des mètres. Et évidemment, ben, en fonction de la réponse, eh bien, il y aura soit des possibilités économiques. Mais encore une fois, au niveau scientifique, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup plus que quelques centimètres cubes d'échantillons pour faire une science extraordinaire, surtout quand on fait des retours d'échantillons.
Côté exploration spatiale, la NASA a planifié une mission en novembre 2024 avec un robot, hein, Vipère, pour Volatile Investigating Polar Exploration Rover, qui est chargé d'étudier la concentration de glace sur place. Mais l'autre donnée manquante, quand même, Jessica Flau, c'est comment l'extraire ? Comment extraire cette eau sur place depuis la Lune ?
Oui, bah on a tout à apprendre hein, du pôle sud. Pour l'instant, on ne sait pas en quelle quantité se trouve cette eau, comment elle est distribuée verticalement, horizontalement, et on ne sait pas même quelle est la nature. Est-ce qu'elle est liée à des minéraux ? Est-ce que ça va être de la glace pure, des lentilles de glace ou finement mélangée avec le régolithe lunaire ? Donc il y a beaucoup à faire. On ne sait pas en fonction de comment elle est distribuée, vraiment comment elle est mélangée, ça va avoir des propriétés géotechniques différentes. Donc on ne sait pas si ça va être facile de forer dans ces sols gelés au pôle sud, ou si ça va être finalement dur comme du béton. Donc c'est autant de choses que Viper va aller vérifier in situ pour nous en apprendre un petit peu plus sur ce potentiel de ressources de cette glace polaire.
Philippe Lognonnet.
Ben oui, donc Viper va commencer en fait cette exploitation, mais quelque part aussi, pour vraiment aller jusqu'au bout de cette logique d'exploration, il va falloir aller dans ces cratères. Pourquoi ? Parce que l'eau à l'extérieur des cratères, finalement, se sublime très, très rapidement. Et donc, il n'y a guère que ces endroits qui sont dans l'ombre permanente où l'eau reste. Et évidemment, c'est moins 240. Et qui plus est, quand vous êtes à l'obscurité du soleil, c'est extrêmement difficile de communiquer avec la Terre. Vous avez très peu d'endroits où à la fois vous êtes dans l'ombre permanente du soleil et où vous auriez un petit peu de visibilité avec la Terre. Donc, c'est des endroits très compliqués pour l'exploration.
Eh bien, on va continuer notre exploration géologique lunaire. Que peuvent nous apprendre les tremblements de lune ? Reste avec nous, on y vient après ce groove de pleine lune. Black Puma, en direct sur France Culture, nous parlons de la structure et de la géologie profonde de la Lune avec nos deux invités du jour, Jessica Flau, géologue spécialiste des surfaces lunaires et martiennes, chercheuse au CRPG de Nancy, Philippe Lognonnet, géophysicien et planétologue à l'IPGP, professeur à l'Université Paris-Cité, co-responsable scientifique du FSS. Il existe une tectonique lunaire, on ne parle pas de tectonique des plaques, hein, la Lune n'en a pas, le risque sismique sur la Lune n'est pas intense, mais il existe et doit être pris en compte dans le choix des futurs sites d'alunissage. Alors grâce aux anciennes missions Apollo, où on a déjà pu mesurer l'activité sismique de la Lune, 28 événements enregistrés, mais sans pouvoir en déterminer leur origine. On en parle avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes allée à l'IPGP de l'Université Paris Cité pour examiner les futurs instruments qui iront mesurer les tremblements de Lune.
Oui, on en a parlé un petit peu à travers Farsight Seismic Suite, une mission dont le lancement est prévu avec Artemis 3 pour, on espère, fin 2026. L'enjeu est de déposer des sismomètres dans une zone stratégique, au pôle sud, face cachée, dans le bassin de Schrödinger. L'instrument est issu de la mission martienne InSight, mais a été bien sûr adapté à l'écosystème lunaire et surtout son champ de gravité. Sébastien de Rocourt, qui est le chef de projet à l'IPGP de l'instrument, et vous-même, Philippe Lognonnet, m'avez ouvert les portes de la salle blanche où a été mis au point cet instrument qui devrait pouvoir mieux nous éclairer sur l'activité et la structure interne de la Lune.
Le note, c'est un capteur longue période. C'est un peu l'équivalent du haut-parleur dans les graves sur une chaîne IFI. L'autre, c'est le capteur fait par les Anglais, qui est un capteur courte période, qui est un peu l'équivalent du petit haut-parleur aigu sur les baffes. On est dans deux registres de fréquences différents. Le note, c'est un modèle de... Les deux, d'ailleurs, sont des modèles de rechange issus du développement pour l'exploration de Mars. Et donc, nous, on a passé des années à développer ce capteur pour Mars avec... une exigence de performance très forte pour pouvoir être capable d'analyser tout l'intérieur de Mars avec une seule station sismique. Et donc aujourd'hui, on bénéficie de tout cet héritage qui a été fait. Et pour ce projet-là, le principal défi pour nous, ça a été de s'adapter à la gravité lunaire plutôt qu'à la gravité martienne. Donc le choix qui a été fait a été on a fait une petite rotation du sismomètre pour en avoir qu'un seul axe vertical, alors qu'avant on en avait trois sur Mars. On ne modifie pas la masse et du coup on adapte le ressort du sismomètre à la gravité et on obtient quelque chose qui n'est pas optimal au niveau performance. Il aurait été mieux de rajouter de la masse, mais si on rajoutait de la masse, on perdait tout l'héritage en termes de tenue aux vibrations, au lancement, à l'atterrissage, etc. Et donc on a travaillé un peu l'électronique pour faire un petit gain de performance et arriver à faire une proposition qui aura une sensibilité, une capacité de détection meilleure que celle des sismomètres Apollo. On se rend dans la salle blanche où ont été intégrés et testés les sismomètres lunaires et on a toujours un modèle de rechange stocké.
Évidemment, c'est un espace très confiné où on limite l'introduction de poussière et qui nécessite d'être équipé.
Oui, il faut s'équiper. L'idée est de protéger le matériel de toutes les poussières et toutes les contaminations particulières. Donc on va devoir mettre des surchaussures avant de passer sur le banc, puis on enfilera des blouses, charlottes, masques, et puis ensuite on pourra quitter le sas pour rentrer dans les salles.
Vous allez voir, on espère le proposer à la NASA pour l'appel d'offres de la mission Artemis 4. Et donc si la NASA nous sélectionnait, donc ce que vous allez voir ira sur la Lune avec la mission Artemis 4.
Alors, voilà, donc là c'est l'une de nos deux salles blanches, c'est celle qui est la plus propre des deux. Et donc on a ici l'espace de travail. Ici c'est une enceinte à vide dans laquelle sont stockés nos capteurs de rechange qu'on peut voir à travers le hublot. Si on s'approche, là on peut voir à travers le hublot et on peut distinguer deux sismomètres à l'intérieur. Alors ça c'est pour le container qui était autour, on a un filtre qui est dessus qui permet de laisser sortir le gaz pour que le capteur puisse être sous vide une fois sur la Lune, mais qui empêche la poussière de rentrer. Et donc ça, c'est le banc de test qui nous a servi à caractériser ces filtres, à vérifier qu'ils étaient bien étanches à la poussière et à mesurer leur porosité pour vérifier qu'ils laissaient passer bien le gaz et à quelle vitesse ils le laissaient passer. Donc ça, c'est le banc de test qui nous a permis vraiment de caractériser et de tester ces filtres. Sur un sismomètre, tous les sismomètres, depuis qu'on fabrique des sismomètres, c'est toujours pareil. Il y a deux systèmes. Il y a un système mécanique qui est toujours plus ou moins une masse pendue à un ressort. Et dès que le sol bouge, on va avoir un mouvement de cette masse par rapport au bâti du sismomètre. Et c'est ce déplacement-là qu'on va mesurer avec un capteur de déplacement. Donc autrefois, c'était un petit stylet qui venait gratter un rouleau de papier. Ensuite, on a fait des électroniques. Donc le capteur qui était sur Mars et qui va partir sur la Lune, là, c'est un capteur électrostatique. C'est des électrodes, c'est des plaques métalliques qui se regardent l'une l'autre. et c'est avec ces caractéristiques de capacité électrique qu'on va pouvoir mesurer le déplacement. Sur ce capteur-là qu'on prépare pour les années 2030, ça va être un interféromètre optique, c'est-à-dire qu'on va utiliser de la lumière, deux ondes lumineuses, et on va venir comparer les distances parcourues par deux rayons lumineux pour avoir une mesure du déplacement. Alors le prototype, vous en avez un ici, donc vous pouvez reconnaître le ressort. Et là on a le pivot et je vais vous le déverrouiller pour que vous voyez le sismomètre bouger. Alors il n'est pas encore, celui-ci n'est pas équipé de son capteur de déplacement, qui nous sera livré bientôt.
Il est fabriqué ailleurs ?
Oui, oui, il est fabriqué par un opticien. Et donc là, c'est le support pour le capteur de déplacement. Et là, ce que vous voyez, c'est vous voyez la partie mécanique qui oscille. Et comme vous voyez, ça oscille très bien. Il n'y a aucun frottement. Et donc, c'est quasiment pas du tout amorti. Et c'est ce qu'on recherche. Et ça en fait un capteur très sensible. Et donc là, si on revient dans une demi-heure, alors il bougera un tout petit peu moins, mais il continuera d'être bougé et excité par les vibrations ambiantes du bâtiment. Donc là, il y a 1 kg de masse mobile, ce qui est assez important, c'est le plus gros qu'on ait jamais fait, et ça fait 15 cm de long sur 10 cm de large, grosso modo. Les modèles lunaires dont on parle, celui qui va partir en 2026, le capteur il fait plutôt 5 cm par 10, et la masse mobile ne fait que moins de 200 grammes.
Pour beaucoup d'entre nous, c'est des années et des années de travail, d'amitié. Ce que je retiens, c'est que quand on a des rêves en termes de recherche, finalement, on peut les réaliser. Et la seule chose qui peut empêcher de les réaliser, c'est que quelqu'un d'autre le fasse, ce qui n'est pas si grave en soi. Donc je pense que on peut arriver à faire beaucoup de choses finalement avec le temps aussi. Notre message aussi, c'est que on a eu la chance nous d'être aidés par le CNRS, par le CNES pendant des années, des années, des années avant que la mission InSight se fasse. Et donc ça a été un long investissement. Il a fallu 20 ans pour que l'investissement paye, mais peut-être ça valait le coup, et ça montre aussi que ce système français de la recherche en fait peut faire des grandes choses parce qu'il s'inscrit sur la durée.
Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Jessica Flau, une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
Oui, pas évident en fait d'essayer de reproduire cette ambiance du laboratoire à la radio. Je trouve que vous avez très bien capturé un peu toute cette technicité déjà qu'il y a dans le développement de cet instrument, toute cette passion aussi qu'on entend très bien dans la voix de Philippe. Et moi, depuis que je suis jeune étudiante, je connais Monsieur Philippe Lognonnet comme étant le spécialiste non pas français mais international de la sismologie lunaire. Et je sais que ça fait plus de 20 ans qu'il développe ce concept d'instrument pour l'envoyer sur la Lune. Je suis contente que ça aboutisse vraiment bientôt. C'est des années de dévouement, de travail, de toute une équipe. Ça va donner des données absolument exceptionnelles dès que ça va pouvoir repartir sur la Lune. Et donc j'en profite aussi pour faire un clin d'œil, si c'est possible, à mes autres collègues français, parce qu'on a une très belle communauté de planétologie en France, qui ont placé des instruments sur des missions lunaires à venir. Donc il y a début mai l'instrument Dorn de l'IRAP Toulouse qui va partir sur la mission chinoise Chang'e 6 aussi, qui va mesurer le dégazage de radon à la surface de la Lune. Et puis il y a nos collègues du CNES Toulouse aussi qui ont développé des caméras qui techniquement sont sur la Lune, puisque c'était les caméras à bord du robot Rachid qui s'est écrasé en avril 2023, mais qui vont repartir aussi sur la mission Rachid 2 aux alentours de 2027. Donc, comme Philippe le disait très bien, on a de la chance avec ce système dans la recherche française où on est soutenu sur le long aussi par l'Agence spatiale française, le CNES, de pouvoir quand même développer des instruments sur plusieurs décennies, des choses qui sont pertinentes et qui sont sélectionnées par des pays étrangers pour voler sur des missions internationales.
Philippe Lognonnet, le FSS justement va donc se poser sur la face cachée, ça aussi dans le bassin Schrödinger, mais ça aussi il y a un enjeu géopolitique à ça.
Oh oui, il y a un enjeu géopolitique parce que après que les Chinois l'aient fait, il était évident qu'il fallait que la NASA le fasse. Mais j'ose espérer que ça n'est pas l'unique raison pour laquelle on va aller sur la face cachée. Et donc on va aussi aller sur la face cachée parce que ça, Ben, la Chine le fera peut-être, mais pas encore. On va justement essayer d'étudier l'intérieur en fait de la face cachée. On parlait tout à l'heure de l'épaisseur de la croûte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'épaisseur de la croûte, pour l'instant, en fait, on n'a fait que la peser avec des missions orbitales qui tournaient autour de la Terre et puis de la Lune. Et quand on fait cette opération de peser, on fait des hypothèses. Et là, en l'occurrence, on a supposé que la densité de la croûte de la face cachée est la même que la densité de la face visible. Et donc, bah, évidemment, avec des hypothèses comme ça, on trouve des choses. Mais si la densité n'était pas tout à fait la même, eh bien, l'épaisseur serait différente. Donc, il faut y aller pour essayer justement de mesurer cette épaisseur avec une autre technique, et en l'occurrence la sismologie.
À quel point, avec le FSS, on ira encore plus loin que l'ont été les sismomètres d'Apollo ?
Alors, ce qui est intéressant avec la Lune, vous avez parlé tout à l'heure des 28 gros séismes tectoniques, hein, peut-être sur lequel on reviendra, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une toute petite partie de la sismicité lunaire. Il y a eu, pendant la mission Apollo, 13 000 événements sismiques qui ont été détectés, un millier d'impacts, et puis plus de 12 000, donc presque 13 000 moins 30 séismes profonds. Alors ces séismes profonds, ils viennent de sources sismiques vers 1000 km de profondeur et ces sources ne bougent pas, c'est toujours les mêmes failles qui jouent. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Lune est extraordinaire parce que à chaque fois qu'on va revenir sur la Lune avec un sismomètre, eh bien on va pouvoir utiliser les stations sismiques du passé pour faire un réseau. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas besoin de faire ce réseau avec toutes les stations en même temps. À chaque fois qu'on y revient, eh bien, on peut utiliser les stations d'Apollo, les stations de FSS, les stations de la mission Chang'e 7 et ben, sûrement les stations de la station sismique qui sera sur Artemis 3, parce que la NASA a sélectionné aussi un sismomètre pour la mission Artemis 3.
Là, avec FSS, on va pouvoir étudier, examiner la partie la plus profonde du manteau, et même un peu dans le noyau, c'est ça ?
Voilà, parce que l'autre idée, c'est que en sismologie, plus vous êtes loin des sources, eh bien, plus vous allez profond. Ce qui est assez logique, d'autant que la Lune est ronde, donc ben, plus on est loin d'une source, ben, plus on va en profondeur, parce que, en gros, la ligne droite, elle va de plus en plus profondément. Et donc, encore une fois, ben, comme toutes les séismes profonds avaient été détectés par Apollo sur la face visible, et bien comme on va aller sur la face cachée, on va avoir des rayons sismiques qu'on appelle des raies qui vont aller jusqu'à 1200, 1300, 1400 km de profondeur. Et là, ça va être très intéressant parce qu'on sera à la base du manteau, on sera même peut-être dans le noyau de la Lune.
Cœur de la Lune. Jessica Flao, pour revenir justement sur ces 28 gros séismes détectés pendant Apollo, l'un d'entre eux a presque une magnitude 5 et s'est produit pas très loin du pôle Sud. Il y a donc quand même une problématique de risque sismique à cet endroit.
Je pense qu'il y a un risque de séisme un petit peu partout. Je ne sais pas si forcément plus fort au pôle Sud qu'ailleurs. Après, ça reste une magnitude assez faible par rapport à ce qu'on peut connaître sur Terre. C'est important parce que, bah, bien évidemment, si on veut installer des infrastructures sur la Lune, il faut comprendre l'origine de ce séisme. Et comme le disait Philippe, ça peut passer par l'installation d'un réseau et donc installer des sismomètres un petit peu partout, dispersés à la surface de la Lune. On sait que certains de ces séismes sont liés aux effets de marée, entre donc les forces d'attraction entre la Terre et la Lune. Mais il y a différentes profondeurs, il y a différentes origines probables pour ces séismes. Donc il y a encore un petit peu de travail. Je suis sûre que mes collègues de l'IPGP et Philippe vont le faire très très bien.
Philippe Lemieux, sous ce risque sismique lunaire.
Oui, alors, c'est sa petite trentaine de séismes. D'abord, ils sont assez superficiels, hein, mais pas tant que ça. En fait, ils sont quand même vers 150 km de profondeur. Alors ça a une grande importance parce que un séisme de magnitude 5, par exemple, qui est à 15 km sous vos pieds, ben, il va être beaucoup plus fort qu'un séisme de magnitude 5 qui est à 150 km. Sauf qu'on n'a pas très bien mesuré ces profondeurs-là. Et donc ça, c'est un des éléments clés. Mais effectivement, il se trouve que ben, statistiquement, sur cette trentaine d'événements, le plus gros était pas très loin, était finalement au pôle Sud, pas très loin du pôle Sud. Et donc, ça pose des questions. Alors, ça va pas être une problématique de go-no-go, comme on dit, hein, mais ça va plutôt être une problématique pour définir des normes de construction, parce qu'évidemment, sur la Lune, si vous avez une petite fissure dans une structure, eh bien, vous allez avoir une dépressurisation de cette structure, et donc... Une maison sur Terre qui aurait une petite fissure dans un mur, bon, c'est pas si grave que ça, mais sur la Lune, vous avez plus d'air à l'intérieur.
Oui, on parle des risques sismiques, mais Jessica Flau, les séismes sont provoqués par des impacts de météorites. Il y a aussi la prise en compte de risques d'impacts de météorites pour les normes de construction des habitats.
Alors, fort heureusement, tout ce qui tombe actuellement comme météorites sur la Lune comme sur la Terre, c'est plutôt des choses de petite taille. Au fur et à mesure donc du temps, on a quand même fait pas mal de ménage dans le système solaire, donc il n'y a pas forcément des gros impacts. Mais il y a encore des impacts à la surface de la Lune, et ça peut provoquer de la tectonique, par exemple des glissements en surface ou des phénomènes de rebond. Bon, après, la probabilité qu'une météorite tombe exactement sur la base qu'on vient d'installer, ce serait un petit peu dommage. Ce qu'il faut s'abriter, ça va être plutôt tout ce qui va être rayons cosmiques, vent solaire, toutes les choses qui vont arriver à la surface de la Lune parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et donc, c'est pour ça qu'on envisage aussi de plus en plus de faire, pourquoi pas, des habitats enfouis, donc ou sous le régolithe lunaire, ou d'utiliser par exemple des grottes de lave pour les futures bases lunaires.
Et pour pouvoir se protéger lors de tempêtes solaires, Philippe Lognonnet.
Oui, tout à fait. En fait, ce risque d'impact est finalement relativement bien connu aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, pour une surface de l'ordre du kilomètre carré, on parle de quelques impacts par an. Quelques impacts en 10 ans. Quelques impacts en 10 ans qui ont une énergie à peu près équivalente à une balle de fusil. Donc évidemment, si on se paye la balle de fusil, ça fait beaucoup, mais on parle d'impact en 10 ans. Une grande partie de ces impacts sont liés à des essaims de comètes. Finalement, on arrive à les prédire. Et donc, je pense qu'il y aura aussi des mesures en fait de protection. À certains moments, il fera pas beau dehors parce que finalement, ça sera pas le moment d'aller dehors parce que le ciel pourrait nous tomber sur la tête.
On arrive vers la fin de cette discussion, Jessica Flau. Quand on aura bien compris la structure interne de la Lune, la taille de son noyau, sa température, etc., comment tout ça va pouvoir nous aider et nous éclairer sur les problématiques d'habitabilité et d'origine de la vie? Comment la Lune est importante en fait pour comprendre et pour illuminer les côtés obscurs des sciences de la Terre qui sont sans réponse?
Alors, il y a tout ce qui est formation des planètes rocheuses. Il y a aussi ce qui va être premier million, milliards d'années d'histoire du système solaire, puisque c'est un enregistrement qu'on a sur la Lune. Comme elle a pas de tectonique des plaques, elle a gardé un peu l'histoire, l'enregistrement de tout ce qui s'est passé depuis la formation du système solaire, alors que sur Terre, cet enregistrement, il est perdu depuis très longtemps à cause justement de nos tectoniques des plaques qui vient en permanence recycler la croûte. Donc on peut essayer de comprendre par exemple l'histoire du bombardement, l'évolution du flux. Y a-t-il eu un pic de bombardement tardif vers 4 milliards d'années? Quelles étaient les conditions au moment où la vie est apparue à peu près sur Terre? Ça, on peut essayer de le regarder sur la Lune. Est-ce que la Lune a joué aussi un rôle dans l'apparition de la vie sur Terre ou pas, notamment parce qu'elle stabilise pas mal les paramètres orbitaux de notre planète, comme son obliquité, alors qu'on sait que, par exemple, que Mars, qui n'a pas de grosse lune, elle a une obliquité qui varie beaucoup, qui a fait un petit peu des changements climatiques un peu plus chaotiques. Donc il y a pas mal de choses à comprendre, aussi bien dans la formation des corps rocheux que dans l'influence de la Lune sur cette habitabilité.
Pourquoi la Terre n'a-t-elle pas évolué comme Vénus? Pourquoi a-t-elle eu une température de surface qui a permis à l'eau d'être liquide? Toutes ces questions-là, la Lune et l'étude plus en profondeur de la Lune nous permettront peut-être d'y voir un peu plus clair. Merci à vous deux. On est arrivé à la fin de cette discussion. Comme chaque jour, on retrouve dans quelques secondes la chronique avec Science avec Alexandra Delbaume. Mais avant ça, j'en profite pour annoncer que la 5e édition de On the Moon Again a commencé. Ça se tient jusqu'à demain. Ce sont 300 sites en France pour observer la Lune. On vous poste toutes les informations sur notre fil Twitter. Merci encore, c'est l'heure de retrouver la chronique avec Science.
Comment mesurer l'accélération de l'expansion de l'univers? C'est un phénomène observé depuis la fin des années 90. En plus de s'éloigner les unes des autres, les galaxies s'écartent de plus en plus vite. Cela n'a pas toujours été le cas. Cette accélération n'est observable que dans les 6 derniers milliards d'années de notre univers. Seulement, cela ne coïncide pas vraiment avec ce qu'on connaît de la physique. Pour résoudre ce casse-tête, il a fallu théoriser l'existence de quelque chose qui repousse l'espace. C'est l'énergie sombre. Pauline Zarouk est chercheuse CNRS au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies de Sorbonne Université et responsable scientifique du projet DESY à l'IN2P3.
Ce qu'on sait de l'énergie sombre, c'est que d'abord elle est nécessaire, c'est-à-dire que depuis la fin des années 90, on confirme à chaque fois dans nos mesures qu'on a besoin de cette énergie sombre au sens où il y a effectivement une accélération de l'expansion de l'univers et elle domine à la dynamique de l'univers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en termes de contenu énergétique, aujourd'hui, l'énergie sombre, elle représente presque 70% du contenu énergétique de l'univers. Donc, là où dans le passé, elle n'était pas dominante, ce qui dominait, c'était davantage la formation des structures, des galaxies, des étoiles, des planètes, etc. Dans l'époque qui correspond aux 6 derniers milliards d'années, l'énergie sombre domine, et elle domine significativement, à 70%. En revanche, on ne sait rien de sa nature, donc c'est pour ça qu'on a, dans notre modèle pour analyser nos observations, pour interpréter les observations, on a fait l'hypothèse la plus simple que cette énergie sombre correspondrait à une constante, dont les propriétés sont constantes avec le temps. Mais on n'explique pas du tout la valeur de cette constante et pourquoi l'énergie sombre aurait des propriétés constantes avec le temps.
Et c'est l'objectif des différents projets d'observation du ciel qui se sont succédés, comprendre ce qu'est cette énergie. Pour cela, il faut mener des cartographies, des relevés astronomiques, recenser chaque galaxie, chaque point lumineux, réaliser des mesures très précises pour contraindre la nature et les propriétés de l'énergie sombre afin de retracer son histoire. Et c'est l'une d'entre elles qui vient d'être publiée, une cartographie nommée DESY, un petit surnom en anglais pour instrument spectroscopique de l'énergie sombre. C'est une grande collaboration internationale de près de 1000 scientifiques et 72 institutions qui exploitent les données du télescope Mayol à l'observatoire Kitt Peak en Arizona. Grâce à ses yeux robotisés, il mesure les spectres lumineux de près de 5000 galaxies lointaines toutes les 20 minutes la nuit, là où la génération précédente observait seulement 1000 spectres toutes les 1h30. Une précision hors norme donc, et cette première salve de pré-publication dépasse déjà la précision des 20 ans de cartographie passée. Et résultat, les premières analyses suggèrent que cette constante cosmologique qui gouvernerait l'énergie sombre n'en est peut-être pas une.
On ne parle pas encore de découverte affirmée. D'abord, on apprend aussi avec l'expérience à être plus prudent et puis à essayer de quantifier l'importance de cette découverte par rapport à la précision à laquelle on mesure les choses. Donc déjà, un premier résultat quand même, c'est que ce modèle standard de la cosmologie dans lequel on suppose que l'énergie sombre a des propriétés constantes, ce modèle tient toujours, c'est-à-dire qu'on ne l'exclut pas complètement, on confirme à nouveau ce modèle standard de la cosmologie, mais on observe des déviations qui pourraient indiquer que l'énergie sombre évolue au cours de l'histoire de l'univers. Et c'est dans ce sens-là que c'est un peu une première. Les déviations à ce modèle sont plus importantes lorsqu'on combine également nos analyses avec d'autres types d'analyses basées sur d'autres objets astrophysiques, une autre méthodologie. Et là, on augmente l'importance de cette déviation.
Cette dizaine de prépublications a été déposée sur le site Archive et toutes viennent d'être soumises à relecture dans des revues scientifiques. Reste que pendant l'analyse de ces données, le télescope, lui, a continué d'en accumuler. Et chaque nuit, il est capable d'observer jusqu'à 150 000 nouveaux objets. Il y a donc encore beaucoup à faire. La prochaine étape, c'est de réaliser une seconde méthode d'analyse complémentaire pour cette fois tester la théorie de la gravité. Lorsqu'elle sera faite, les données de la première année d'observation seront rendues accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique, soit pour refaire ses calculs, soit pour en mener de nouveaux.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Alexandre Morales, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Garance Préma Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp à la réalisation, Hélène Trigueros à la technique aujourd'hui, Élise Leu et Quentin Olivier à France Bleu Nancy. Vous pouvez nous écouter partout en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.